Chapitre 9. La lumière qui pénétrait par l'unique fenêtre de la cellule dessinait sur le mur de Pisée un trapèze divisé en 9 cases par les barreaux entrecroisés. Cette clarté indiquait à Nicole qu'elle devait se lever. Elle quitta le banc de bois qui lui servait de lit et traversa la petite pièce pour se rincer le visage avec l'eau que contenait une cuvette. Ensuite, elle inspira à plein poumon et chercha au fond de son être les forces qui lui seraient nécessaires pour affronter cette nouvelle journée. Elle était convaincue que la prison où elle séjournait depuis 5 mois se situait dans le secteur agricole du Nouvel Éden entre Hakone et San Miguel. Il lui avait bandé les yeux lors de son transfert, mais tout indiquait qu'elle était à la campagne. Parfois, des odeurs animales pénétraient dans la cellule par l'ouverture de 40 cm de côté percée au ras du plafond, et elle ne voyait aucun halo dans le ciel pendant la nuit. Ces 3 derniers mois de détention ont été les plus pénibles, pensa-t-elle, en se levant sur la pointe des pieds pour pousser quelques grains de riz sur l'appui de la lucarne. Pas de conversation, pas de lecture, pas d'exercice. 2 repas quotidiens composés d'un peu de riz et d'eau. L'écureuil qui lui rendait visite chaque matin arriva. Elle l'entendit et recula pour le regarder manger. « Tu es mon unique compagnie, mon bel ami », lui dit-elle. Le petit animal se redressa et tendit l'oreille, inquiet. « L'ennui, c'est que tu ne peux comprendre ce que je te raconte. » L'écureuil ne s'attarda pas. Il repartit dès qu'il ne resta plus un seul grain de riz, l'abandonnant à sa solitude. Elle continua de fixer l'emplacement où il s'était tenu. Elle se demandait ce que devenaient les siens. Avant le report de son procès à une date indéterminée 6 mois plus tôt, elle avait été autorisée à recevoir un visiteur par semaine pendant 1 heure. Ses entretiens se déroulaient en présence d'un garde et toute conversation portant sur la politique et les événements d'actualité était strictement interdite, mais elle attendait avec impatience ses retrouvailles hebdomadaires avec Ali ou Patrick. Les derniers temps, seul Ali venait encore la voir régulièrement. À mots couverts, ses enfants lui avaient fait comprendre que Patrick travaillait pour le gouvernement et avait peu de moments de liberté. Elle avait été folle de rage, puis profondément abattue lorsqu'on l'avait informée que Benji venait d'être placé dans une institution et qu'elle ne pourrait plus le voir. Ali affirmait qu'il était bien traité, compte tenu des circonstances. Il ne parlait guère de Cathy. Ses enfants ne savaient pas comment lui annoncer que leur sœur ne souhaitait pas lui rendre visite. La grossesse d'Ali était un sujet de conversation sans danger. Nicole caressait le ventre de sa fille et commentait avec elle ce que ressentait une future mère. Quand Ali lui parlait de l'agitation du fœtus, elle lui faisait part de ses propres expériences. Quand Ali ne se sentait pas bien, elle lui prescrivait un régime ou des activités physiques qui l'avaient soulagé en pareil cas. Sa fille était venue la voir pour la dernière fois 2 mois avant la date prévue pour la délivrance. La semaine suivante, on transférait Nicole dans sa nouvelle cellule et elle n'avait plus parlé à un seul être humain depuis ce jour. L'ibiote qui la surveillait était non seulement muette, mais sourde à ses questions. Dans sa prison précédente, elle pouvait lire. On lui apportait des livres disques de la bibliothèque sitôt qu'elle le demandait, et les journées s'écoulaient assez rapidement entre 2 visites. Elle avait relu les romans historiques de son père, des recueils de poèmes et des manuels d'histoire et de médecine fort intéressants. Fascinée par les points communs existants entre elle et les 2 héroïnes de son adolescence, Jeanne d'Arc et Aliénor d'Aquitaine, elle puisait des forces dans le récit de leur vie. Ces 2 femmes n'avaient pas renoncé à leurs principes malgré leur incarcération longue et pénible. Après son transfert, lorsqu'elle constata que la gardienne ne lui rendait pas son lecteur de cube avec ses autres biens personnels, elle crut à une simple mission. Mais après avoir souvent réclamé en vain cet appareil, elle comprit que cette distraction lui serait désormais refusée. Le temps s'écoulait très lentement ici. Chaque jour, elle faisait les 100 pas dans sa cellule pour garder son corps et son esprit actifs. Pendant ses marches, elle fuyait les pensées se rapportant à sa famille, qui accentuait son sentiment de solitude et sa dépression, et se concentrait sur des thèmes philosophiques. Elle analysait souvent des événements de son passé. Elle se remémora par exemple ce qu'elle avait fait à 15 ans. Elle vivait avec son père à Beauvois et poursuivait brillamment ses études lorsqu'elle décida de participer à la sélection nationale des trois jeunes filles qui personnifieraient Jeanne d'Arc lors des commémorations du 750e anniversaire du martyre de la Pucelle d'Orléans. Nicole se lança dans cette compétition avec une passion et une obstination qui ravirent et inquiétèrent son père. Mais, après qu'elle eut remporté les demi-finales à Tours, Pierre cessa même d'écrire afin de l'aider à se préparer pour les finales, qui auraient lieu 6 semaines plus tard à Rouen. Classée première lors des épreuves athlétiques et intellectuelles, elle obtint un score élevé dans l'évaluation de ses qualités d'actrice et fut certaine d'être sélectionnée. Sa déception en fut d'autant plus grande lors de la proclamation des résultats. Je me suis longtemps reproché cet échec. Je refusais de croire mon père lorsqu'il m'affirmait que les Français n'étaient pas prêts à voir une noire tenir le rôle de Jeanne d'Arc. Je n'ai recouvré ma confiance en moi que pour les Olympiades, 3 jours avant qu'Henri ne me la fasse perdre à nouveau. Je suis resté pendant des années replié sur moi-même. Je n'ai retrouvé la paix intérieure que bien plus tard, et c'est seulement ensuite que j'ai pu me soucier de mon entourage. Le fil de ses pensées se rompit. Pourquoi sommes-nous si nombreux à faire cette expérience? Pourquoi les jeunes sont-ils condamnés à ne penser qu'à eux, jusqu'au jour où ils se sont finalement réconciliés avec eux-mêmes? Quand la Garcia lui apporta un repas comportant du pain frais et quelques carottes, elle comprit qu'il allait se produire du nouveau. 2 jours plus tard, la Tiasso lui apporta une brosse, du maquillage, un miroir et même du parfum. Nicole put prendre un bain pour la première fois depuis des mois. Avant de remporter le baquet, la biote lui remit un bout de papier. « Demain, vous recevrez de la visite. » Il lut-elle. Nicole ne put dormir. À l'aube, elle bavarda comme une petite fille avec son ami l'écureuil. Elle lui parla tant des espoirs que des craintes que suscitait en elle ce rendez-vous inattendu. Elle se maquilla et se peigna à plusieurs reprises avant de renoncer à se donner un aspect plus présentable. Le temps s'égrenait encore plus lentement que de coutume. Finalement, elle entendit des pas et se précipita vers le couloir. « Cathy !» s'écria-t-elle en voyant sa fille au-delà des barreaux. « Bonjour, mère !» dit Cathy en déverrouillant la porte. Elles s'étreignirent et Nicole n'essaya même pas de retenir ses larmes. Elles s'assirent sur le lit, le seul meuble de la cellule, et parlèrent de leur famille pendant plusieurs minutes. Elle apprit ainsi qu'Ali avait eu une fille, Nicole Desjardins-Turner, puis Cathy lui montra une 20aine de photographies, dont des clichés du nourrisson avec ses parents, d'Ali et de Benji dans un parc, de Patrick en uniforme, et même de Cathy en robe du soir. Nicole prit son temps pour les regarder, les yeux embués de larmes. « Oh, Cathy !» murmurait-elle sans cesse. Puis elle la remercia. « Tu peux les garder, mère !» fit Cathy en se levant. Elle alla vers la fenêtre, ouvrit son sac et en sortit un paquet de cigarettes et un briquet. « Pourrais-tu t'abstenir de fumer, ma chérie ? Il n'y a pas d'aération ici, et l'odeur risque de durer des semaines. » Cathy la regarda, puis rangea le tout dans son sac. Deux Garcia entrèrent avec une table et des chaises.
« Que se passe-t-il ? »
voulut savoir Nicole.
« Nous allons déjeuner ensemble, »
expliqua Cathy en souriant.
J'ai fait préparer un repas pour l'occasion. Un coq au vin cuisiné dans les règles avec des champignons.
Le plat qui lui mit l'eau à la bouche fut apporté dans la geôle par une troisième Garcia et posé sur la nappe à côté des assiettes en porcelaine et de l'argenterie. Il y avait même une bouteille de vin et deux verres en cristal. Nicole avait oublié les convenances. Le coq était si délicieux et les champignons si tendres qu'elle les mangea sans prêter attention à sa visiteuse. Elle accompagnait chaque gorgée de vin d'un murmure appréciateur ou d'un commentaire tel que
« C'est fantastique !»
Mais elle ne dit rien d'autre tant qu'il y eut quelque chose dans son assiette. Cathy manquait d'appétit. Elle grignotait un peu de nourriture et observait sa mère. Quand Nicole eut terminé, sa fille appela une Garcia afin qu'elle débarrasse la table et leur apporte du café. Nicole n'en avait pas bu depuis près de 2 ans.
« Et toi, Cathy ?»
demanda-t-elle après avoir exprimé d'autres remerciements pour ce festin.
« Que fais-tu à présent ?»«
Toujours la même vieille rengaine, si ce n'est que je suis devenue directrice de l'animation pour tout Vegas. J'engage les numéros qui passent dans les clubs. Les affaires vont bien malgré... »
Elle s'interrompit en se reprochant d'avoir oublié que sa mère ignorait tout de la guerre.
« As-tu trouvé un homme qui sait apprécier à ta juste valeur ?»«
Rien de durable ?»
fit Cathy avec une nervosité soudaine.
« Écoute, mère, je ne suis pas venue te parler de ma vie sentimentale, mais te faire une proposition au nom de toute la famille. »
Nicole la dévisagea en fronçant les sourcils et prit conscience que sa fille avait beaucoup vieilli au cours de ces 2 dernières années.
« Je ne comprends pas. Quel genre de proposition ?»«
Eh bien, comme tu dois le savoir, le gouvernement prépare ton procès. Tout est prêt. » Et le chef d'inculpation est naturellement la sédition, ce qui entraîne automatiquement une condamnation à la peine capitale. Selon la partie civile, les preuves sont accablantes et il serait vain d'espérer un acquittement, mais en raison des services que tu as rendus à la colonie par le passé, le procureur serait disposé à ne retenir contre toi qu'une accusation de complicité passive si tu plaidais coupable.
Coupable ? « Je n'ai rien fait de répréhensible !»
s'exclama Nicole.
« Je sais, mère, mais nous pensons tous, Ali, Patrick et moi, que tu seras condamné. Le procureur s'engage à réduire la sentence et à te faire transférer immédiatement dans un lieu de détention plus confortable, où nous pourrons tous aller te voir, y compris ta petite fille. Il a même laissé entendre que les autorités autoriseraient peut-être Benji à vivre avec Robert et Ali. Et vous estimez que je devrais avouer des crimes que je n'ai pas commis, alors que je n'ai pas cessé de proclamer mon innocence depuis mon arrestation. Nous ne voulons pas que tu meures, surtout pour rien.
Pour rien ? Tu crois que je mourrai pour rien ?
Elle se leva de la table et fit les 100 pas.
Si je meurs, ce sera pour la justice,
ajouta-t-elle. Plus pour elle-même que pour sa fille.
Même s'il n'y a ici personne qui puisse le comprendre. Est-ce si important? Tu oublies que les tiens te perdront à jamais et que Benji restera dans cette horrible institution. Voilà donc les termes de ce marché. Une version insidieuse du pacte de Faust avec le diable. Renonce à tous tes principes, Nicole, et avoue tes fautes inexistantes. Naturellement. On ne te demande pas de vendre ton âme pour en tirer des avantages personnels. Non, il serait trop facile de résister à la tentation. Il faut que tu te plies à la volonté du plus fort pour le bien de ta progéniture. Existe-t-il un seul argument qui pourrait plus efficacement faire fléchir une mère ?
Elle bouillait de colère. Cathy plongea la main dans son sac et prit une cigarette qu'elle alluma d'une main tremblante.
Et qui vient me proposer cela? Qui vient me tenter avec un repas délicieux, un vin capiteux et des photos poignantes? Ma propre enfant, le fruit de mes entrailles!
Nicole s'avança et saisit les revers de la veste de Cathy pour la secouer violemment.
Refuse d'être leur Judas, ma fille. Ton honneur vaut plus que quelques deniers. S'ils me condamnent et m'exécutent sur la base de leurs accusations spécieuses, tu découvriras le bien fondé de ma décision. »
Cathy se dégagea et recula. Elle tira sur sa cigarette.
« Tout ça, c'est des conneries. Tu es toujours aussi pharisaïque. Je veux t'aider, te permettre de rester en vie. Pourquoi refuses-tu d'écouter les autres, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta putain de vie ?»
Nicole resta à la fixer pendant plusieurs secondes, et ce fut d'une voix plus posée qu'elle répondit.
« J'ai écouté ce que tu avais à me dire, et ce que j'ai entendu m'a profondément déplu. Je t'ai également observé, et ce que j'ai vu m'a appris que me sauver devait être le dernier de tes soucis. Non, ça ne collerait pas avec l'attitude qui a été la tienne au cours de toutes ces dernières années. Si tu agis ainsi, c'est uniquement par intérêt. Et je ne crois pas non plus que tu parles au nom d'Ali et de Patrick. Si c'était le cas, il t'aurait accompagné. Je dois avouer que tes propos m'ont troublé. J'ai pensé que je ne devais pas vous faire souffrir, mais j'ai finalement compris de quoi il retournait. Mon enfant.
Ne me touche pas !
Cria Cathy en voyant sa mère s'approcher d'elle.
Épargne-moi ta pitié !
Un profond silence régnait dans la cellule. Cathy pleurait. Elle écrasa sa cigarette et tenta de se reprendre.
Écoute !
Dit-elle enfin.
Je me fiche des sentiments que je t'inspire, c'est secondaire. Mais tu pourrais penser à Patrick, à Ali, et même à la petite Nicole. Devenir une sainte est donc plus important pour toi que leur chagrin?
Ils finiront par comprendre, le moment venu.
Le moment venu, tu seras morte, et cet instant est proche. Ne comprends-tu pas qu'ils décideront de la date de ton procès dès que j'aurai informé Nakamura de ton refus, et que tu n'auras alors plus la moindre chance de t'en tirer?
Tu ne peux pas m'effrayer, Cathy.
Je ne peux pas t'effrayer, je ne peux pas t'émouvoir, je ne peux même pas faire appel à ton bon sens. Comme tous les saints, tu n'entends que tes voix intérieures. Et je présume qu'il serait inutile d'insister.
Adieu, mère.
Elle ne put retenir ses larmes plus longtemps.
Adieu, Cathy.
Lui répondit Nicole, qui pleurait elle aussi.
Je t'aime toujours, tu sais.